Chapitre 9. L'esprit, une forteresse. La capitale du corps, toutes les parties du corps étaient destinées à être au service de l'esprit. L'esprit est la capitale du corps. L'esprit régit l'être humain tout entier. Tous nos actes, bons ou mauvais, ont leur source dans l'esprit. C'est l'esprit qui adore Dieu et nous unit aux êtres célestes. Cependant, nombreux sont ceux qui passent toute leur vie sans avoir conscience de l'écrin qui renferme ce trésor. Le cerveau contrôle le corps. Aujourd'hui, de nombreux malades resteront dans le même état parce qu'on n'arrive pas à les persuader que leur expérience n'est pas crédible. L'esprit est la capitale du corps, le siège de toutes les énergies nerveuses et des activités mentales. Les nerfs provenant du cerveau gouvernent le corps. Par leur intermédiaire, les impressions mentales sont transmises à tous les nerfs du corps comme par des fils télégraphiques, et ils contrôlent l'action vitale de toutes les parties de l'organisme. Tous les organes moteurs sont régis grâce aux messages qui leur sont transmis par le cerveau. Ces énergies nerveuses, qui communiquent avec l'organisme tout entier, sont le seul moyen par lequel le ciel peut entrer en relation avec l'homme et agir sur sa vie intime. Satan agit sur les facultés perceptives. Satan se présente à l'homme avec ses tentations comme un ange de lumière, tel qu'il s'est présenté à Jésus-Christ. Le malin s'est efforcé de placer l'homme dans un état de faiblesse physique et morale afin de le vaincre par ses tentations et de se glorifier de sa perte. Il a réussi à l'inciter à satisfaire ses appétits, sans se préoccuper des terribles conséquences. Satan sait fort bien qu'il est impossible à l'homme d'accomplir ses devoirs envers Dieu et envers ses semblables en affaiblissant les facultés que le Seigneur lui a données. Le cerveau est la capitale du corps. Si les facultés perceptives ont été obscurcies par suite de telle ou telle forme d'intempérance, les valeurs éternelles ne sont plus perçues comme elles devraient l'être. Le poids des coutumes, notre utilité dans ce monde et notre salut final dépendent dans une large mesure de la vigueur ou de la faiblesse mentale. L'ignorance de la loi divine concernant notre nature physique qui prévaut jusqu'à présent est déplorable. L'intempérance sous toutes ses formes constitue une violation des lois de notre être. La débilité mentale règne à un degré effrayant. Le péché est rendu attrayant à cause du voile que Satan jette sur le mal, et il se réjouit lorsqu'il peut enfermer le monde chrétien dans ses habitudes quotidiennes, sous le poids des coutumes, comme les païens, et faire que les croyants deviennent esclaves de leurs appétits. Garder la forteresse, tous devraient comprendre la nécessité de préserver leur nature morale et de la renforcer grâce à une vigilance constante. Comme de fidèles sentinelles, ils devraient garder la forteresse de l'âme, sans jamais s'imaginer qu'ils peuvent relâcher cette vigilance un seul instant. L'esprit bien formé ne vacille pas, l'esprit doit être formé au moyen de tests quotidiens touchant des habitudes de fidélité, pour que nous acquérions le sens des impératifs du bien et du devoir qui doivent dominer les penchants et le goût du plaisir. Les esprits ainsi formés n'oscillent pas entre le bien et mal, comme le roseau agité par le vent. Mais dès qu'un sujet se présente à eux, ils discernent immédiatement quel principe est en cause, et choisissent instinctivement la bonne voie, sans avoir besoin d'hésiter longtemps. Ils sont fidèles parce qu'ils ont personnellement cultivé des habitudes de fidélité et de vérité. Forteresse non gardée, nous sommes transformés par la contemplation. Bien que façonné à l'image de son Créateur, l'homme peut former son esprit de telle manière que ce qui lui faisait horreur naguère lui devient agréable. Comme il cesse de veiller et de prier, il cesse de garder la forteresse, son cœur, et il commet péché et délit. L'esprit est alors perverti, et il est impossible de l'affranchir de la corruption alors qu'il s'est habitué à réduire en esclavage les capacités morales et intellectuelles et à les laisser être dominées par des passions grossières. Un combat incessant doit être mené contre l'esprit charnel, et nous devons être aidés par l'influence purifiante de la grâce divine qui élèvera l'esprit et l'habituera à méditer sur les choses pures et saintes. Les sources de la vie ou de la mort, si donc, dit l'apôtre, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Le cœur est la citadelle de l'homme, car de lui jaillissent les sources de la vie ou de la mort. Aussi longtemps que son cœur n'est pas purifié, l'homme n'est pas digne de participer à la communion des saints. Celui qui sonde les cœurs ne connaît-il pas ceux qui se complaisent dans le péché sans se soucier de leur âme? Et quelqu'un n'a-t-il pas été témoin des choses les plus secrètes dans la vie de chacun de nous? J'ai dû entendre des paroles que des hommes adressaient à des femmes et à des jeunes filles, des paroles de flatterie, propres à décevoir et à se faire valoir. Satan fait usage de tous ses moyens pour détruire les âmes. En agissant ainsi, il en est peut-être parmi vous qui avez été ses agents. Si tel est le cas, vous devrez en répondre au jour du jugement. L'ange dit de cette classe de personnes, elles n'ont jamais donné leur cœur à Dieu. Le Christ n'habite pas en elles. La vérité ne se trouve pas là. Sa place est occupée par le péché, la tromperie, la fausseté. La parole de Dieu n'est pas reçue comme la vérité ni prise comme ligne de conduite. Danger du confort et du bien-être, les Israélites ont été induits dans le péché alors qu'ils jouissaient d'une période de repos et de sécurité. Cessant d'avoir toujours Dieu présent à leur esprit, ils avaient négligé la prière et s'étaient abandonnés à un sentiment de propre justice. Dans le confort et le bien-être, ils avaient laissé pénétrer en eux des pensées impures. Les traîtres de l'intérieur avaient ouvert la citadelle à Satan. C'est encore ainsi que l'ennemi médite notre perte. Avant la chute d'un chrétien, il se fait dans son cœur, à l'insu du monde, un long travail préparatoire. Son esprit ne descend pas d'un seul coup de la pureté et de la sainteté dans les bas-fonds de la perversité, de la corruption et du crime. Il faut du temps pour qu'un être formé à l'image de Dieu s'écroule au niveau de la brute et devienne une incarnation de l'esprit satanique. Mais on finit toujours par ressembler aux images que l'on contemple. L'homme qui se livre à des pensées impures se transforme insensiblement jusqu'au moment où il regarde avec complaisance un péché qui autrefois lui faisait horreur. Le tabac réduit la sensibilité, sous quelque forme qu'on l'utilise, le tabac est nuisible à l'organisme. C'est un poison lent. Il affecte le cerveau et réduit la sensibilité au point que l'esprit devient incapable de percevoir clairement les choses spirituelles, notamment les vérités qui seraient susceptibles de nous débarrasser de cette mauvaise habitude. Ceux qui consomment du tabac sous une forme ou sous une autre ne sont pas en règle devant Dieu. Une habitude aussi répugnante les met dans l'impossibilité de glorifier le Seigneur dans leur corps et dans leur esprit, qui lui appartiennent. Et puisqu'il absorbe des poisons subtils et indéniables, qui ruinent leur santé et avilissent leurs facultés mentales, Dieu ne saurait les approuver. Il peut faire preuve de mansuétude à leur égard lorsqu'il se livre à cette habitude pernicieuse en ignorant combien elle leur est dommageable. Mais quand le sujet leur a été présenté sous son vrai jour, ils sont coupables devant lui s'ils continuent à se livrer à cette passion grossière. Esclaves de l'alcool et des drogues, partout, Satan cherche à attirer les jeunes sur le sentier de la perdition. S'il parvient à ce que ses victimes s'y engagent, il leur fera descendre la pente, les entraînera de dissipation en dissipation jusqu'à ce que leur conscience, devenue insensible, n'ait plus aucune crainte de Dieu. Ces malheureux parviennent de moins en moins à se contrôler. Ils s'adonnent au vin, à l'alcool, au tabac, à l'opium, et vont de déchéance en déchéance. Les conseils qu'ils respectaient jadis, ils les méprisent maintenant. Ils prennent des airs frondeurs et se vantent d'être libres, alors qu'ils sont esclaves de la corruption. Ce qu'ils entendent par liberté, c'est l'esclavage dans lequel ils sont maintenus par l'égoïsme, un appétit perverti et la débauche, The Signs of the Times, 22 juin 1891. Les armes de Satan, l'assouvissement des passions charnelles fait la guerre à l'âme. L'apôtre s'adresse aux chrétiens avec une gravité particulière, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Si le corps est imprégné d'alcool et souillé par le tabac, il ne saurait être saint et agréable au Seigneur. Satan sait qu'il ne peut l'être, et c'est pourquoi il induit les humains en tentation sur le plan de ces passions-là, afin de les rendre esclaves de cette propension, et de les conduire à leur perte. Le pouvoir de dominer les appétits et les passions, si les facultés morales d'hommes et de femmes intelligents sont obscurcies par telle ou telle forme d'intempérance, ils ne sont sur bien des points guère supérieurs aux païens. Satan cherche constamment à détourner les gens de la lumière salvatrice et à les attirer vers les usages et les coutumes reçues, au détriment de la santé physique, mentale et morale. Le grand adversaire sait bien que si les appétits et les passions dominent, la santé du corps et les énergies mentales sont sacrifiées sur l'autel de la satisfaction de soi, et l'homme est conduit rapidement à sa ruine. Au contraire, si une intelligence éclairée tient les rênes, contrôlant les tendances animales, en les soumettant aux facultés morales, Satan sait que son pouvoir de remporter la victoire par ses tentations est très réduit. Ce qui aurait pu être, si au cours des générations passées, les parents s'étaient montrés décidés à maintenir leur corps au service de l'esprit, s'ils n'avaient pas permis à l'intellectuel de s'asservir aux passions animales, il y aurait aujourd'hui sur la terre une autre classe d'êtres humains. Lequel prévaudra, l'esprit ou le corps? Les étudiants doivent comprendre le rapport qu'il y a entre une vie simple et une pensée élevée. Il incombe à chacun de nous de décider, pour soi-même, si sa vie sera dirigée par le corps ou l'esprit. Les jeunes doivent, chacun pour soi, faire le choix dont dépendra leur vie. Il ne faut épargner aucun effort pour leur faire comprendre à quelles forces ils auront affaire et quelles influences agissent sur le caractère et la destinée. Une vérité à inculquer, enseigner aux gens la nécessité de résister à la tentation de céder au désir de l'appétit. C'est sur ce point que beaucoup ont failli. Expliquer à quel point le corps et l'esprit sont étroitement liés, et souligner la nécessité de conserver l'un et l'autre dans les meilleures conditions possibles, circulaire lieutenant ou physicien et évangéliste, circulaire adressée aux médecins et aux évangélistes, 1910.